Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Pour ou contre la réduction du nombre de parlementaires? C'est la question posée aujourd'hui et demain aux Italiens pour un référendum. Les Italiens sont appelés aux urnes également pour des élections municipales et régionales qui concernent 7 des 20 régions du pays. Entre le référendum et les régionales, l'enjeu de ce vote est donc bien national, Bruce de Galzin.
Il y a d'abord la Toscane, fief imprenable de la gauche depuis que les régions gouvernent en Italie. La Ligue et sa coalition de droite pourraient bouleverser l'échiquier politique régional et national en battant le Parti démocrate, successeur du Parti communiste puis socialiste implanté depuis toujours. Une victoire qui ferait oublier la défaite en Émilie-Romagne en janvier dernier. Autre enjeu, les Pouilles dans une moindre mesure. Là, c'est un ancien président de la région qui revient briguer un mandat. Aujourd'hui à gauche, elle pourrait rebasculer à droite. En Vénétie aussi, l'enjeu c'est le score que l'on attend écrasant du président sortant, le léguiste Luca Zaia, que beaucoup au sein même de la Ligue veulent mettre en orbite pour remplacer Matteo Salvini. La droite et l'extrême droite marchent en revanche sur des œufs quand il s'agit des consignes de vote pour le référendum qui va réduire de plus d'un tiers le nombre de parlementaires. Ils y ont toujours été favorables, mais ne seront pas étrangers à la poussée du non, car s'il fait un gros score, ce serait un désaveu pour le gouvernement en place.
Bruce de Galzin à Rome pour France Culture. Et si le oui l'emportait au référendum, le nombre de parlementaires italiens passerait de 935 à 600. Ce serait alors dans la moyenne européenne. Les États-Unis ont proclamé de manière unilatérale cette nuit que les sanctions des Nations Unies contre l'Iran étaient à nouveau en vigueur, selon le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, promettant au passage de punir ceux qui les viole. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a répondu que le rétablissement imminent des sanctions de l'ONU contre l'Iran était une déclaration mensongère de Washington, selon ses mots. L'application TikTok, menacée d'interdiction aux États-Unis au nom de la sécurité nationale, va pouvoir continuer à être téléchargée dans le pays. Donald Trump a donné hier soir son feu vert à un projet de développement impliquant les Américains Oracle et Walmart. 100 millions de personnes utilisent TikTok aux États-Unis. Le journal de 9h sur France Culture reviendra sur cette affaire. Nous partons maintenant en Israël, au lendemain de la première journée de reconfinement. Pour au moins 3 semaines, les habitants ne peuvent pas aller au-delà d'un kilomètre de leur domicile, sauf pour les courses alimentaires, pour raisons médicales, pour faire du sport en plein air ou bien aller travailler. Les commerces non essentiels, les lieux de loisirs, les écoles sont fermés alors que les grandes fêtes juives ont commencé hier soir. Reportage à Jérusalem de notre correspondant Frédéric Mettezo.
À Jérusalem-Est, la partie majoritairement arabe de la ville, le samedi est l'équivalent du lundi en France, en temps normal. Mais les voitures sont moins nombreuses que d'habitude. Cafés, restaurants, fleuristes, coiffeurs sont fermés. On n'entend plus les enfants aller et sortir des écoles. Ahmad, le loueur de voitures, se désole de voir son quartier à l'arrêt.
Tout est fermé. Les affaires ne vont pas mal. Elles vont très très mal. Et les aides du gouvernement, c'est zéro.
Abbas, le restaurateur voisin, a mis ses 25 employés au chômage. Lui regrette le manque d'informations.
Personne ne sait rien sur le corona. Tout le monde croit savoir, mais personne ne nous donne les vraies solutions.
Dans Jérusalem, les barrages de police sont partout. C'est la partie ouest de la ville. Les juifs se reposent pour Shabbat et fêtent Rosh Hashanah, la nouvelle année. Rosie ne croit pas que les Israéliens vont respecter le confinement.
Les Israéliens adorent être tous ensemble. Donc l'idée de distanciation physique et l'idée de ne pas se retrouver en famille, ça n'existe pas.
Le Premier ministre Netanyahou a déjà menacé de prolonger le confinement si la situation ne s'améliore pas.
Quelle sera la stratégie pour Europe Écologie Les Verts pour l'élection présidentielle de 2022? La question devrait être tranchée ce soir. Le Parlement des Verts, le Conseil fédéral du Parti écologiste, est réuni ce week-end pour discuter de plusieurs options. Deux motions principales s'affrontent, celle du candidat déclaré Yannick Jadot, l'eurodéputé ancien candidat écologiste en 2017, qui veut que la campagne présidentielle soit lancée avant Noël, et celle de la direction du parti, Julien Bayou et Sandra Regol, qui préfèrent, eux, la désignation à un intermédiaire donc de ce candidat après les régionales. Et au milieu des discussions avant le vote d'aujourd'hui, une lettre d'un trésorier démissionnaire est venue tendre encore un peu plus le débat, Laurence Perron.
Être clair, cohérent, collectif et courageux. Le patron des Verts a beau croire à sa règle des 4 C, c'est plutôt C comme controverse qui s'est invité hier en marge de la réunion du Parlement des Verts. Une lettre, celle de l'ancien trésorier Thierry Brochot, sous-titrée « Lettre trouvée sur un noyer ». Il y démonte la stratégie de la ligne majoritaire, celle qui devrait l'emporter ce soir, à savoir pour la présidentielle, il est urgent de ne pas se hâter. Thierry Brochot, lui, défend l'option des amis de Yannick Jadot. La campagne présidentielle, écrit-il, doit commencer sans tarder. Et une désignation d'un candidat ou d'une candidate avant la fin de l'automne. Il moque cette soudaine passion des Verts pour les régionales. Rappelons aussi que Julien Bayou est candidat en Ile-de-France. Il dénonce le fonctionnement ultra complexe du parti. Un moteur de mobylette dans une carrosserie de SUV, raille-t-il. Julien Bayou lui prend la chose avec philosophie. Il se dit d'ailleurs d'accord avec nombre de constats de son ancien trésorier, sauf sur le calendrier électoral. Or, c'est précisément l'enjeu du vote du Conseil fédéral aujourd'hui. On verra s'il en sort cette fois au moins un peu de clarté.
Des pluies diluviennes se sont abattues sur le Gard hier. 1600 foyers étaient toujours privés d'électricité à 23h hier soir. La journée a été marquée en particulier par une disparition, Tony Cellier.
Celle d'une aide-soignante en poste au centre hospitalier du Vigan. Elle était en déplacement pour dispenser des soins à des patients à leur domicile. Sa voiture a visiblement été emportée par la crue de l'Hérault. Des habitants de Pont-d'Hérault, un hameau de la commune de Saint-André-de-Majoncoul, l'auraient aperçue dans l'habitacle. Pour le reste, il a surtout fallu mettre des personnes à l'abri, 220 sur le secteur Vallée-Borgne, 200 aussi rien que sur la commune de Valrogue. C'est d'ailleurs celle qui a été le plus touchée, plus de 700 mm de pluie, c'est historique, c'est presque autant que lors de la crue de 1900. Alors il y a aussi de nombreux dégâts sur les infrastructures du Gard, des routes inondées, un pont a été coupé en deux à Saint-André-de-Majoncoul. Au total, sur la journée, 5000 foyers ont été privés d'électricité. Enedis aurait déjà effectué la moitié des réparations et renvoie ses équipes sur le terrain ce matin. Un camping a également été complètement noyé à Lézan.
Météo France a levé pendant la nuit la vigilance rouge, pluie, inondation et crue pour le Gard. Pour aujourd'hui, c'est un temps très instable qui devrait dominer sur la grande partie du pays, avec des averses sur l'Auvergne et l'Aquitaine, de fortes pluies signalées sur la Côte d'Azur. Ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies. Température douce ce matin, 16 à 23 degrés, avec 16 à Brest, 20 à Paris, 19 à Lyon et 23 degrés à Ajaccio.